Alors je voudrais continuer ce soir sur là où nous arrivons, c'est-à-dire l'existence, la supposée existence d'un rapport entre les harmoniques que constitue le brillant de la voix, couleur, le timbre, mais la couleur du timbre, et puis, c'est une question bien sûr, et puis celle, le rapport entre ça, les harmoniques, et puis, on pourrait même dire autrement, l'apparition des harmoniques, parce que ça ne va pas être soi du tout, c'est pas quelque chose qu'on a, à de rares exceptions près, et encore, qu'on a naturellement. Ce qu'on appelle la voix naturelle, c'est quelque chose d'assez... Il y a quelques êtres parlants qui peuvent d'emblée avoir la voix qui permet de chanter, mais en général, ça se travaille. Et même s'ils l'ont, ils ont intérêt à le travailler parce qu'il faut arriver à faire tenir la voix. Bien, donc, le rapport entre l'apparition des harmoniques, c'est compliqué, mais enfin, prenons les choses comme ça, et ce qu'on va appeler l'apparition de l'inconscient freudien, pour autant que l'inconscient freudien, évidemment, n'a rien à voir avec la pensée. C'est pas du non-conscient qui pourrait penser. Ça, c'est plutôt ce que la psychologie pourrait dire, ou ce que la science pourrait dire, ou ce que la raison, la pensée pourrait dire. Alors, l'inconscient freudien, je me réfère à la façon dont Lacan le suppose, à la fin, notamment à la fin de son enseignement, plus particulièrement, dans un séminaire qui s'appelle « L'insuccès de l'Umbewusst », où il prend le mot allemand « Unbewusst », inconscient, et il le fait glisser, comme ça, dans la langue française, pour dire que c'est ce qu'il ne comprend pas, il ne pourra pas traduire finalement l'unbewusst par l'unbevu. Et c'est vrai que, du coup, vous voyez que toute la question est celle de ce qui peut survenir soudainement. Et il y a effectivement différentes formes d'unbewusst, d'unbevu. Et il y en a notamment une qui est celle du mot d'esprit, tout ça, ça renvoie au texte de Freud. Il y a des textes canoniques, c'est des textes de 1900 à peu près, hein. La science des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne, et puis le mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient. C'est-à-dire que l'une bévue, c'est quelque chose qui fait que quand ça apparaît, et ce n'est pas une histoire de sens, évidemment. Hein. Quand ça apparaît, il apparaît un son particulier, ce qu'on va appeler de la signifiance, une signifiance, par opposition au signifié, qui est donc du côté du sens, il apparaît le surgissement de la signifiance qui s'entend. Et non pas qui se pense, qui s'entend. C'est donc, ça nous ramène à la question du signifiant comme étant quelque chose qui s'entend, et non pas comme quelque chose qui se lit à partir de ce qui s'entend, qui est le signifié. Et donc nous sommes radicalement, c'est la découverte de Freud qui permet d'avancer, nous sommes radicalement divisés, mais c'est une division qui est... J'insiste, radical, c'est qu'on ne peut pas franchir, comme ça, cette division, entre le signifiant et le signifié, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signifiant s'émancipe de lui-même. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a plus rien à voir avec le signifié. Et du coup, la linguistique, notamment avec de Saussure, à l'école de Prague, qui était allé dans ce sens-là, mais pas aussi loin que ça quand même, reprend toute sa valeur, en quelque sorte, puisque alors, ce qui est en jeu, c'est le fait que, pourrait-on dire, le signifiant, voilà, je reprends ce que dit Lacan, et l'inconscient est la condition de la linguistique. Ce que, évidemment, ne vont pas reconnaître les linguistes. Les linguistes se basent sur, bien sûr, les données de la linguistique, mais il n'y a même pas à leur demander de le reconnaître, c'est pas le problème. Et notamment sur cette barre qui est ce qu'on appelle l'arbitraire, mais il n'y a pas d'arbitre du tout. Au niveau du langage, tel que l'inconscient permet de le percevoir, de le toucher du doigt, c'est quelque chose qui est... Il faut un saut pour passer à cette dimension du signifiant. Et si je continue la comparaison, il y a effectivement possibilité de concevoir, du moins de supposer, un rapport entre ça, quelque chose qui sonne, quelque chose de signifiant, et l'unbewusst, l'unbewu. Il ne faut pas aller vite, il ne faut pas aller trop vite, parce que rapidement on va retomber dans une clinique appliquée, et ce n'est pas ça qui est en jeu, puisque derrière tout ça, bien sûr, ce qui est l'agent de tout ça, c'est de prendre en compte, c'est ça l'enseignement de Lacan, c'est de prendre en compte que ce qui se passe dans le transfert, c'est une expérience de discours, et que le discours, c'est pas le sens. Un exemple que nous connaissons fort bien, dès que nous sommes révoltés par quelque chose, dès que nous prenons une position contre, je ne sais pas, Dieu sait s'il y a possibilité de le faire, ce que pourrait indiquer l'expérience du discours, c'est qu'il ne suffit pas de se retourner pour ne pas être pris de la même façon que celui qu'on critique. C'est ça que ça veut dire. Et que le discours, il part du lieu d'où ça parle, et non pas de ce qui est dit. Ce n'est pas la dimension du dit. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Pas grand-chose. C'est-à-dire que dès qu'on dit... qu'on n'est pas d'accord, etc. En fait, on est déjà absorbé par le discours contre lequel on dénonce. Voilà le grand truc. C'est ça la dimension du discours. Et que la dimension du discours, elle ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre. Et l'expérience de l'inconscient résulte, c'est pour ça que ça ne peut que se toucher, ça surgit comme ça, puis ça... Ça s'abolit, c'est ce qu'on appelle le sujet de l'inconscient. C'est-à-dire que ce qu'il importe, c'est d'arriver à toucher du doigt l'inconscient dont nous sommes sujets. Mais ça veut dire toucher du doigt, ça montre bien que ce n'est pas une expérience comme ça qui délivre du sens. Ce n'est pas ce qu'on dit habituellement, évidemment. Et je bascule évidemment, je fais un saut, c'est le cas de le dire. Lorsque on produit les harmoniques dont je vous parle par une expérience qui est celle de quoi ? On va essayer de reprendre ça. Eh bien, ces harmoniques, ils surgissent de la même façon, c'est-à-dire qu'ils font sonner quelque chose. Quelque chose qui s'entend, qui ne se comprend pas, et à partir du moment où ils ont sonné quelque chose, parce que c'est là où j'en suis dans mon élaboration, parce qu'ils ont fait entendre une sorte de tresse, qui est le son à ce moment-là, tresse que je ne pense pas que les instruments scientifiques les plus perfectionnés peuvent démontrer, peut-être que ça peut le montrer. Ça veut dire que c'est un par un que ça peut s'entendre, ça ne peut pas s'enseigner, comme ça, en tant que tel. L'inconscient ne peut pas s'enseigner du tout de la même façon. Ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on peut calculer, hein, même s'il y a des petites ambiguïtés chez Freud, ce n'est pas évident du tout. Hein. La science des rêves, il dit que l'inconscient ne calcule pas, ne pense pas, etc. Bien sûr, le fait qu'il mette une négation, c'est problématique. Hein. Bon, donc on ne peut pas estimer l'inconscient, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le penser en tant que tel. Alors, et je mets bien l'inconscient freudien pour bien montrer que c'est même l'inconscient freudien que Freud, que l'on trouve dans le dire de Freud, mais que Freud n'a pas défini en tant que tel véritablement. Ce qui permet à Lacan de dire que c'est lui, Lacan, qui a pu parler de l'inconscient freudien, et il va dire que l'inconscient est structuré comme un langage. Et voici le mot important, le langage. C'est-à-dire que le langage nous ramène là où nous ne voulons habituellement pas du tout aller, encore que nous y tenons quand même, c'est compliqué, nous sommes dans une position conflictuelle par rapport à ça, c'est tout ce qui se passe justement dans la dynamique du transfert, et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui mais en direction de quelque chose, et ce quelque chose, on est bien en difficulté pour le définir, on ne le trouve pas comme ça chez Freud, ce quelque chose, Lacan l'a appelé l'objet cause du désir. Ce n'est pas l'objet du désir, ce n'est pas l'objet de la demande, c'est l'objet cause du désir, qu'il va appeler objet petit a, et c'est quelque chose, parmi ces, notamment ces quatre objets qui sont définis, Freud a parlé de l'objet oral, de l'objet anal, il a parlé un peu de l'objet scopique, pas beaucoup, mais il y en a un dont il a pratiquement pas parlé, c'est justement la voix. Donc voilà nos quatre objets. Et la voix, comment est-il possible de parler d'un objet qui n'a pas d'être? C'est que quand on parle de la voix habituellement, on en parle, ben oui, à partir d'un être qui... On pourrait dire qu'il sonne, qu'il résonne, et cet être qui résonne, c'est celui qu'on peut mesurer, on revient, qu'on peut mesurer dans, eh bien, par des mesures tout à fait intéressantes, tout à fait avec des fréquences, etc. Hein. Mais c'est pas étranger à ça, mais c'est pas ça qui est en jeu dans la voix comme objet cause du désir. Alors, pour montrer justement que c'est très compliqué au niveau du sens, parce que nous sommes tous, on pourrait dire, conditionnés par le sens. Hein, nous avons d'ailleurs été obligés de passer par là pour communiquer. Compliqué, communiquer, hein, c'est une drôle d'histoire. Hein. Donc communiquer avec quelqu'un, souvent, c'est en quelque sorte l'hypnotiser d'une certaine manière, c'est-à-dire faire en sorte que nous soyons d'accord. Oui, c'est pas simple en fait. Ou alors c'est trop simple. Mais on n'est pas du tout dans le registre de l'objet cause du désir. On est dans le registre de l'objet du désir peut-être. Et ce qui apparaît d'emblée dans ce que Freud va appeler le narcissisme, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y a comme ça une identité de l'être entre celui qui pense, par exemple, et ce qui est pensé, hein, puisque pour dire que c'est ça le biaba, en termes de discours, hein, là, je parle, hein, c'est qu'il y a une identité entre le pensé et la pensée, et on en est tous là, dès que nous pensons, dès que je parle, dès qu'il y a cette dimension-là qui fonctionne pour qu'on puisse se comprendre, et c'est là-dessus qu'est basée la philosophie, enfin tout. Tous les discours habituellement, et ça a commencé, on ne sait pas quand, mais enfin on trouve ça, dès qu'on a quelques écrits, notamment chez Aristote, donc, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui est présent, qui est ce qu'on appelle la dimension du dit, mais cette dimension du dit est soutenue, alors comment? Ça c'est une vraie question, par le fait qu'il y a, là on retrouve, de même qu'il y a l'une bévue, il y a quelque chose d'insaisissable qui constitue le dire. Le dire, c'est quelque chose qui s'entend. C'est quelque chose qui est propre à chacun. Il n'y a pas deux dires identiques. C'est comme il n'y a pas deux visages identiques, et on peut dire aussi qu'il n'y a pas deux voix identiques, à cause des harmonies. Mais évidemment, pour avancer dans cette perspective-là, ce qui me mord, ce qui me tord là, c'est bien sûr mon expérience de chanteur lyrique, puisque c'est ça qui m'anime en quelque sorte, c'est ça qui me permet d'avancer ce que j'avance. Autrement dit, on ne peut tout à fait pas être d'accord avec ce que je dis. Ça ne changera rien à cette supposition qui est celle que j'essaie de développer et qui est cette rencontre entre l'expérience, on va dire, du transfert, mais attention, hein, du transfert en ce sens que nous sommes des êtres parlants, c'est-à-dire que nous sommes fils du langage, c'est ça que ça veut dire l'expérience du transfert. Je dirais en psychanalyse, ça ne veut rien dire en psychanalyse. Dans le discours analytique, c'est autre chose, le discours analytique. Parce qu'on ne sait plus bien de quoi on parle, là, justement. Hein? Je ne vais pas revenir sur les lettres avec lesquelles Lacan écrit ça, mais il prend des lettres parce que, justement, comme dans la mathématique, les lettres échappent au sens. C'est-à-dire que on a A, B, C, grand S, grand A, etc. Et on ne sait pas de quoi on parle, en fait. C'est-à-dire qu'on parle du fait qu'il y a un savoir qui ne peut pas se définir. Et ce savoir, nous en avons déjà parlé, c'est celui d'un certain espace de jouissance. Celui qui est en jeu dans l'inconscient, qui fait que quand je parle, troisième personne, quand je parle, j'en dis plus que je n'en sais, et je parle avec mon corps. Voilà le corps qui apparaît. Mais le corps qui apparaît là, ce n'est pas le corps de la médecine, de la psychologie, de la physiologie. Ce n'est pas le corps qu'on connaît, qu'on peut visualiser, qu'on peut calculer avec des dosages, quels qu'ils soient. C'est à le prendre au sérieux. Je rappelle Lacan dans Radiophonie. Le corps est ce qui peut porter la marque propre à le ranger dans une suite de signifiants. Et voilà la dimension du signifiant, c'est-à-dire du langage qui réapparaît. Autrement dit, le corps qui est en jeu, vous voyez, ce n'est pas du tout ce qu'on appelle le corps, c'est autre chose, c'est un certain type de rapport au signifiant. Alors on va parler par exemple, disons, du corps du symbolique, ben, c'est rapide. Dès qu'on parle du corps du symbolique, d'emblée vient une représentation, c'est un truc défini, délimité. Si on parle du signifiant, c'est plus défini, c'est plus limité. Le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. Voilà la définition. Donc, c'est tout à fait un autre univers, et c'est dans cet univers de jouissance que il y a de l'une bévue, il y a de l'une bévue, c'est un article partitif de l'une bévue, c'est pas il y a l'une bévue. Il y a de l'une bévue, comme on dit du pain, hein? On ne dit pas de l'eau, on ne dit pas autre chose, on ne dit pas l'eau, ça, c'est pas du tout pareil, c'est une partie, à l'article partitif, et la partie, ça renvoie de toute façon à la parse, à quelque chose qui, étymologiquement, on peut peut-être prendre ça, on trouve ça dans quoi? Dans la parturition, dans quelque chose qui s'engendre, parturiant, hein? Donc, il y a quelque chose comme ça qui peut soudainement être créé, apparaître. On en voit les traces dans le langage, hein, bien sûr, hein, du côté de cette passe-là. Et ce quelque chose, donc, l'expérience du transfert, le discours analytique, ce qu'enseigne le discours analytique, si on prend compte la dimension du discours analytique, et ça ne va pas de soi du tout, pas du tout, il ne faut pas croire que ça va de soi. Pourquoi? Parce que même si on a fait une analyse, même si on analyse, on a la pensée qui fonctionne tout le temps, qui est toujours prête à se remettre devant, hein, Et ce quelque chose fait que tout porte à reculer devant cette, je reviens sur le même mot, cette dimension signifiante, cet espace de la signifiante, cet être, mais alors si on met être de signifiant, c'est plus du tout l'être. Et alors, la chose absolument extraordinaire, auquel on ne pouvait pas du tout penser, justement à partir de discours habituels, hein, discours scientifiques qui démarrent au moment des Lumières, là, hein, après la Renaissance, puis qui va conduire à quoi ? À faire des petits, là, hein, le discours du maître, le discours universitaire, hein, dans lequel on est tous pris aussi, puis il y a un discours particulier qui est le discours d'Hystérie qui remue un peu tout ça. Bon. Mais le discours analytique, c'est quelque chose qui advient comme un pas, comme un passage. C'est uniquement un pas. On peut prendre le pas, justement, avec toute la polysémie qui est dans ce mot-là. De telle façon qu'on ne sait pas bien, justement, de quoi on parle. C'est certainement pas la négation, c'est autre chose. Et quand on dit j'ai pas, je sais pas quoi, ben, on ne sait pas ce qu'on dit, évidemment, parce qu'on croit qu'on dit je n'ai pas, quoi, moi, hein, j'ai pas faim, je sais pas. Bon, c'est pas du tout ça, on ne sait pas ce qu'on dit. Tout ça pour montrer que ça ne va pas de soi de prendre en compte qu'il y a autre chose que le discours de la totalité, hein, pour appeler le discours totalitaire, il n'y a pas besoin d'être dans les régimes totalitaires. Dès que je pense évidemment en totalitaire. Je ne peux pas penser autrement. Et même si, comme je le disais, je me révolte contre le totalitaire, je suis quand même pris dedans. C'est pour ça que je me révolte. Alors, j'essaie d'arriver à revenir au cri là, de Munch pour un peu parler justement de l'objet voix, l'objet cause du désir. Eh bien, mais il faut bien revenir quand même toujours sur les mêmes choses et puis, en revenant à l'écoute, du coup, moi, je fais quoi? C'est ça le problème. Ben, je creuse quelque chose. J'avance et je creuse comme quand je répète, ça s'appelle le travail d'école, c'est-à-dire le travail sur le son, notamment sur les voyelles pour un chanteur, dans la technique italienne traditionnelle, notamment la voyelle I. C'est à partir du I que l'on peut progressivement montant faire apparaître les fameuses harmoniques, les faire apparaître de telle façon qu'ils se tressent d'une certaine façon pour donner la couleur à la voix, et j'insiste, il n'y a pas deux couleurs identiques, il y a des catégories, à peu près définir, différents types de chanteurs, hein, bariton, moyen, ténor, bariton, basse, des voix d'homme, hein, alto, et puis soprano, des voix de femme, et puis là-dedans, on va redéfinir. Les... Bon, on est toujours dans la définition, là. Et puis, un jour, on s'est aperçu, ben non, un bariton à la Scala, je ne sais plus quel est son nom, hein. C'est le seul bariton, c'est quasiment impossible. Enfin, il pouvait faire un si bémol. Quand il faisait un si bémol, on raconte ça, je n'ai pas vu, quand il faisait un si bémol à la Scala de Milan, les lustres bougeaient. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a quelque chose, c'est pas du tout de la... C'est pas du tout... Hein, vous savez qu'un une certaine couleur de voix va faire éclater les verres de cristal. C'est de ça dont on parle. Mais en n'en restant pas à l'aspect comme ça, à l'aspect particulier, je dirais du discours scientifique, parce que là aussi on peut rapidement rentrer dedans. Ce qui m'intéresse, c'est pas que le verre de cristal saute, c'est que, et puis c'est même pas les phénomènes de résonance qu'on pourra trouver en physique, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est que, premièrement on parle du cristal de la langue, c'était pas par hasard, une langue cristalline, et Lacan, je sais si c'est ça, il est ça, comme héritage, ce qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on n'en veut pas du cristal de la langue. Ce qu'on veut, c'est de la communication aujourd'hui, hein, c'est du sens, c'est savoir. Hein. Vous voyez dans quoi il se passe, tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est la persécution généralisée, il se passe n'importe quoi, n'importe où, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, on n'arrête pas d'en parler à la télévision, puis alors le lendemain, il y a un gamin qui sort un couteau dans un lycée, parce qu'on en a parlé toutes les 10 minutes la veille à la télévision sur une TLCI. C'est pas étonnant, il n'y a pas besoin d'aller bien plus loin. Hein. C'est pas de mettre des policiers qui va changer quoi que ce soit. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vous voyez, dès que je parle là-dedans, ça veut dire que je suis déjà pris dans le discours. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ça nous montre que nous sommes quand même drôlement, c'est le cas de le dire, si on peut rire un peu, drôlement aliénés. Et ceci sans le savoir, en croyant qu'on dit la vérité. Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre d'être dans la vie, c'est-à-dire dans le langage, autrement? Eh bien, c'est la question de ces objets causes du désir. Ça, c'est c'est l'enseignement de la psychanalyse. Et pour, je vais revenir, parce que dès qu'on parle de l'objet cause du désir, alors je vais un peu rapidement, j'en ai parlé à Paris samedi dernier, hein, je serai bientôt sur son écrit, je vais appeler ça « Un air de sexe », ce sera une vidéo, bien sûr. Eh bien, dès qu'on parle de l'objet cause du désir, alors ça, c'est une découverte, hein, parce que Lacan, parce que Freud, il vient buter sur quelque chose qui s'appelle « Was will das Weib ?»« Que veut la femme ?» Il vient buter dessus, c'est qu'il y a quelque chose, il perçoit bien qu'il y a quelque chose là. Or, tout le séminaire, les séminaires de Lacan des années 71, 72, 73, 74, notamment, séminaire encore, notamment, sont une réponse à la question à laquelle Freud ne peut pas répondre, mais qui est quand même dans le dire de Freud. Ça ne veut pas dire que Freud s'est trompé, pas du tout. Ça veut dire que les élaborations freudiennes trouvent une butée parce qu'il n'arrive pas véritablement à basculer dans le champ de la signifiance. Et pourtant, 25 ans avant, il a parlé du signifiant. Pour montrer à quel point c'est compliqué, ce dont j'essaie de parler. Alors pour s'approcher un peu de cette question-là, hein, puisque le discours analytique, c'est justement que l'objet petit a, l'objet cause du désir, est en position d'agent. Hein, petit a, rien pour écrire, hein, petit a avec une barre qui est bien assise, comme on dit, sur le S2, c'est-à-dire sur le savoir. Donc, comment est-il possible d'approcher cette dimension du petit a dont vous voyez, dans l'expérience du transfert et dans cette expérience particulière qui est aussi une expérience du transfert, évidemment, celle que je découvre et celle du champ lyrique, à condition de ne pas limiter le transfert au transfert sur quelqu'un. Le transfert n'est pas sur quelqu'un, c'est un transfert sur la dimension du savoir. Lacan va bien épingler le sujet supposé savoir. Le transfert, ça a à voir avec le savoir. Alors bien sûr, quelqu'un va représenter le savoir. Mais là, on est dans l'imaginarisation des choses déjà. On est déjà sorti du champ où il faut revenir, qui est le champ de la signifiance. Eh bien, c'est-à-dire le champ du langage, signifiant, ça rend au langage, c'est-à-dire le champ de l'autre, et grand A, que Lacan écrit avec une barre, écrit, c'est pas une écriture, c'est un écrit, c'est pas j'écris quelque chose, hein, quelque chose pour qu'on le comprenne. Quand il dit la femme n'existe pas, la lecture, c'est le signifié, la femme n'existe pas, qui est donc la lecture d'un algorithme, qui est une barre sur le grand A, et puis après femme, ça se dit comme ça, mais c'est pas ça le signifiant. Ça, c'est du signifiant. Autrement dit, si on veut prendre en compte cet enjeu d'en signifier, on va seulement prendre en compte la valeur de la barre, ce qui vient barrer le là. Qu'est-ce que c'est que cette barre, ce réel, qui ne peut pas se dire avec du sens, et qui pourtant, transmet qu'il y a quelque chose. C'est ça, il y a quelque chose. C'est ça l'objet cause du désir. Et si on ne prend pas en compte ça, ça signifie qu'on est dans un discours, le discours bien défini, celui qu'avec Freud on peut appeler celui de la fonction phallique. Freud ne l'appelle pas forcément comme ça, mais il va en arriver là. C'est Lacan qui va l'appeler comme ça à partir de Freud, c'est-à-dire celui du tout, tout homme, celui qu'on peut finalement assez facilement trouver. Savoir, celui défini, mais qui ne prend pas en compte le fait que, si, je reprends ce que j'ai déjà dit, chaque être parlant, chacun d'entre nous, qu'il soit revêtu ou non des signes de la masculinité ou de la féminité, chaque être parlant peut se mettre en référence à ce savoir du tout homme. Parce que homme, c'est pas du tout une histoire de caractère sexuel, c'est pas de ça dont il s'agit. Hein. Mais il est du coup aussi possible tout en étant dans cette fonction-là, là on est dans le langage, hein, dans le discours, hein, il est aussi possible de n'être pas tout dans la fonction phallique, et c'est comme ça qu'elle introduit quelque chose qui est insaisissable, qui est le réel de la différence des sexes, qu'on appelle le féminin, avec Lacan. Or, là, il y a quelque chose qui est... Comment dire ça ? Qui ne va pas de soi, parce que dès qu'on touche au réel, c'est ce qu'on ne peut pas justement penser. Ce que Lacan aborde dans ces années dont je vous parlais, hein, c'est le fait que il n'est pas possible, plus exactement, hein, c'est un pas qui est possible, hein, il n'est pas possible, c'est-à-dire c'est un pas qui est possible, c'est la dimension du possible. Il est possible de toucher à l'inconscient seulement à partir du moment où l'être parlant est dans cette fonction du pas tout, dans la fonction phallique. Autrement dit, tout ce qu'on peut imaginer sur l'inconscient, l'instinct de vie, l'instinct de mort, toutes ces choses-là, habituellement abattues, n'ont rien à voir avec l'inconscient freudien. De même que tout ce qui peut être défini sur la voix, je fais un passage un peu rapide, du côté du son, n'ont rien à voir avec l'objet cause du désir, la voix comme objet cause du désir. Voilà un peu les vérités, on va dire, premières, capitales, qui sont tout à fait importantes à dire, à redire, à répéter, sinon, eh ben, on glisse habituellement dans notre penchant habituellement, à tous, moi le premier, qui est celui du sens, de la pensée, de la signification. Alors, pour illustrer, pour prendre la mesure de ça, je reviens au tableau de Munch, le cri. C'est-à-dire, bon, bien sûr, ce tableau, par hasard, il se trouve, il est fait au moment où Freud écoute les hystériques, commence à écouter les hystériques. 1893, 1894, mais c'est pas ça l'important. Si on peut partir là-dessus, dire qu'il se passait je sais pas quoi, ce moment-là en Europe, etc. C'est pas ça l'important. On peut dire aussi que Freud, que Munch avant avait entendu un cri, etc., puis qu'il a fait le tableau. Mais ça, c'est le penseur, hein, c'est celui qui veut comprendre. Hein. Puis dans le tableau, là, vous voyez qu'il y a au premier plan un être particulier, un être parlant. Il se bouche les oreilles, il ouvre la bouche. Il est au premier plan. Bon, il ouvre la bouche au maximum. Alors on peut décrire ça, on peut dire qu'il est au premier plan, il ouvre la bouche, il bouche les oreilles, il y a quelque chose qu'il ne veut pas entendre. Pas, oui. Et puis derrière lui, il y a cette barrière, puis tout au fond, il y a des êtres, d'autres qui s'en vont, un couple qui part. Puis derrière, il y a ce paysage particulier assez mouvementé. C'est ce que, une description qu'on peut faire, ça. Alors là, on peut citer ça, toutes sortes d'éléments, puis on peut même autobiographique de Munch, peut-être, j'en sais rien. Pourquoi pas, hein, vous pouvez tout à fait comprendre ça. Ce tableau qui maintenant est quand même très très connu, hein, c'est. C'est pas la Joconde, mais c'est quand même pas bien loin, hein, il est très très connu. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il est possible de dire en regard du langage ? C'est ça la question. C'est ça la question que peut poser un psychanalyste, pour autant que pour lui, l'important c'est le langage, c'est-à-dire quoi ? Que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce qu'on imagine dans la biographie pour expliquer les symptômes, pas du tout ça. Ça c'est de la psychologie. Ça a de la valeur, c'est pas le problème, c'est du sens. On sait que toute la dimension du sens a, on va dire, coule à flot pour le bateau sexuel, c'est-à-dire tout le sens est du sexuel au sens, même s'il y a des déplacements, hein. Ça c'est connu depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Bon. On trouve ça chez Freud, hein, j'insiste, hein, c'est pas le problème, hein. Mais on trouve pas que ça. Puis Freud, il fallait bien qu'il débroussaille un peu tout ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, là, la question. Quand je parlais l'an dernier, dans le séminaire hors d'eux, j'ai essayé plusieurs fois de vous dire que l'important, c'est justement pas ce qu'on voit sur le plan. Alors, c'est pas non plus d'aller voir derrière le plan, hein, comme le singe qui fait le tour du truc pour aller voir ce qu'il y a derrière, hein, qui a compris que, bon, c'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on voit en regardant ça. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous regarde. En fait, c'est ça, en fait, c'est qu'on est regardé. Il y a quelque chose qui... Il y a l'œil du peintre qui est là, invisible, le regard du peintre, pardon, pas l'œil, qui est là, et qui, si il touche du doigt l'inconscient de celui qui égard, on pourrait dire. Attention. Hein? Alors là, comme dans l'homophonie, quelque chose va apparaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ce que je vous ai dit, là, c'est tout à fait intéressant, c'est de la pensée, mais ça tourne court. De même que quelqu'un peut très bien commencer un travail et puis s'arrêter parce que les symptômes disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau du sens qui s'est développé, ça va revenir après, c'est que ça va tourner court. Le travail analytique, c'est pourquoi c'est autre chose? C'est parce que ça prend en compte qu'il y a bien sûr tout ce qu'on découvre comme ça, au niveau du sens, mais il y a surtout autre chose. Ce quelque chose d'insaisissable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que si on est imprégné par cette dimension de la signifiance et du langage, on peut dire que là, ce que Munch, sans le savoir, transmet, ben c'est cette dimension du langage, c'est ce champ de l'autre, qui est barré. C'est-à-dire qu'on n'y a pas accès comme ça. On n'y a pas accès que la pensée, c'est ça que ça veut dire. Et que la dimension du sexuel, ce n'est pas du tout les histoires l'histoire d'alcool, hein, c'est ça dont il s'agit. Hein. Cette dimension du féminin, dont je parlais. Mais ben, ce qu'on peut dire là, c'est que ce qui est en jeu, parce que c'est un tableau qui s'appelle le cri, et bien sûr, c'est un tableau, donc il ne peut pas y avoir de cri au sens habituel du terme. Autrement dit, le fait de l'intituler comme ça, qu'il le sache ou non, il n'y a pas besoin que Munch dise quoi que ce soit là-dessus. Je ne trouve que rien du tout. Hein. Puisque c'est un savoir qu'on ne sait pas, qui est en jeu. Eh hein. Bien, qu'est-ce que c'est que ce cri qui ne peut pas s'entendre, on va dire habituellement, dans la fonction phallique, et qui pourtant n'est pas sans pouvoir en faire entendre, mais faire entendre quoi? Voilà. Alors là, on est complètement dans un autre monde. Il n'y a pas le silence qui est brisé par le cri, c'est-à-dire que le cri surgit du silence. Il y a autre chose. Il y a le fait que tout le tableau, en quelque sorte, d'une certaine manière, transmet l'existence, je vais leur dire de se faire, hein, l'existence du silence de l'autre, c'est ça qui est en jeu là, avec les couleurs qu'on voudra, l'existence du silence de l'autre, et que cette existence est mise au premier plan, c'est pas pour rien, et que ce qui s'engouffre dans cette bouche, le fait qu'il se bouche les oreilles, peut-être, bon, enfin bon. Le fait que ce qui s'engouffre dans cette bouche, c'est le fait justement que le silence est présent, on pourrait dire, partout. Et notamment dans cet orifice particulier qui n'est pas rien. Et le génie de Munch, c'est de proposer le fait que ce qui est en jeu, là, j'espère qu'on voit bien le tableau, ce qui est en jeu dans le tableau, c'est le fait qu'au niveau de la bouche, ce silence particulier de l'autre est révélé par le cri qui n'est pas du bruit. Le cri n'est pas du bruit en regard du langage. Autrement dit, le cri crée le gouffre, où le silence rue, dit Lacan, en mars 65. Et c'est le silence de la signifiance. Comment ce quelque chose peut faire entendre ou se faire entendre aussi habituellement? Puisque c'est ça l'enjeu de la signifiance. C'est que nous sommes dans le langage non pas pour faire du bruit avec des mots. Ça, il a bien fallu passer par là pour communiquer avec les autres. Hein. Mais ce n'est pas ça qui est en jeu. Et on pourrait dire que notamment les sons, le babille, enfin tout ça qui apparaît au début, c'est une façon de traduire quelque chose qui dépasse le son qui est entendu. Eh bien, si on vient parler dans l'expérience du transfert, si on se met à chanter, dans une expérience aussi bien codifiée, bien définie techniquement, on ne fait pas n'importe quoi, hein, avec la respiration, avec le corps, est-ce que ce ne serait pas justement en parlant, pour arriver à creuser le gouffre, pour faire entendre ce silence de l'autre. Et le silence, c'est pas du tout se taire. Vous savez, quand on se tait, c'est terrible. Terrible. Hein, on est en fait sous un regard qui nous fige en général. C'est pas du tout ça. Hein. Eh bien, l'idée, ce qui est en jeu dans cette dimension du silence de l'autre que nous transmet l'artiste, là c'est le peintre, je vous parle aussi du silence de l'autre par rapport à cette expérience, c'est-à-dire de la musique, mais plutôt de l'inconscient et de la musique, c'est quelque chose qui s'entend dans le qu'on dise. Qu'on dise reste oublié, dit Lacan. Hein? C'est dans le dire. Et c'est un subjonctif. C'est-à-dire qu'on est subjonctif, qu'on n'est pas dans le subjectif, comme le glisse la langue. Et ça montre bien que ce temps-là, celui du subjonctif, c'est quelque chose qui est ce qui peut advenir. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus aujourd'hui.
No, no, no.